camarades, chers amis, bienvenue à notre fête régionale et un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce banquet dont nous allons nous régaler dans quelques minutes. Depuis des années, nous nous retrouvons nombreux lors de cette rencontre fraternelle organisée par les militants et les sympathisants de lutte ouvrière de Moselle et de Meurthe-et-Moselle. Cela prouve que notre courant politique, celui du communisme révolutionnaire, existe bel et bien et représente quelque chose dans les usines et les quartiers populaires. Les idées que nous portons, les combats que nous menons sont précieux, irremplaçables car les travailleurs doivent côtoyer et doivent pouvoir compter sur des hommes et des femmes qui ne baissent pas les bras et qui soient contre vents et marées à leur côté. Tout d'abord, pour lutter au quotidien contre les licenciements, les salaires de misère, les problèmes de logement, la dégradation des transports, des écoles et des collèges, c'est-à-dire pour contrecarrer l'offensive du patronat et du gouvernement qui veulent nous convaincre que l'avenir, c'est la démolition du droit du travail, c'est le retour un ou deux siècles en arrière. Nous sommes des militants ouvriers et pour cette raison, nous sommes aussi des militants communistes. Luttons pour changer le monde. Nos valeurs ne sont pas celles qui sont distillées aujourd'hui. Ce sont des valeurs de progrès et de fraternité, à l'opposé des idées nationalistes, racistes, communautaristes, sexistes, qui sont autant de poisons pour les travailleurs. C'est sur cet aspect que je voudrais d'abord m'arrêter quelque peu. En cette période de crise, la trahison des partis de gauche et la démission des directions des confédérations syndicales ont laissé le champ libre au développement des deux variantes réactionnaires. L'une avec le Front National qui exploite les préjugés anti-immigrés, l'autre avec les organisations intégristes qui tentent de mettre sous leur coupe ce qu'ils appellent leur communauté. Ces deux variantes ont un point commun. Elles sont des dangers mortels pour les travailleurs. Aux quartiers, aux jeunes des quartiers populaires rejetés, stigmatisés, avant même d'avoir eu le temps d'être adultes, les intégristes disent « Vous êtes rejetés parce que musulmans ». Eh bien nous, leur disons tout autre chose. Nous leur disons « Vous n'êtes pas rejetés parce que musulmans ». Les milliardaires musulmans, saoudiens ou koweïtiens sont au contraire très bien accueillis ici. La discrimination ne frappe en fait que les pauvres. Vous êtes rejetés, précarisés, exploités, parce que vous êtes des enfants des travailleurs, vivant dans un monde sans travail. Alors si vous voulez lutter contre l'exclusion, contre la précarité, contre l'exploitation, votre place est avec nous, avec l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur origine, nationalité ou religion. Le Front National, l'autre variante réactionnaire, tient un discours qui, par bien des aspects, est symétrique à celui des intégristes. Son principal programme est d'exonérer le patronat de toute responsabilité et pour ce faire, il désigne des boucs émissaires afin de renforcer les divisions et les haines entre les travailleurs. Le capitalisme a toujours reposé sur la mise en concurrence des travailleurs. Karl Marx, dans le manifeste du Parti communiste publié en 1848, expliquait déjà, et je le cite, « Les ouvriers, contraints de se vendre jour le jour, sont une marchandise, un article de commerce comme un autre. Ils sont exposés, par conséquent, à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. » Et il ajoutait, le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Et il y voyait le principal frein à l'organisation du prolétariat en classe et donc en parti politique. Voilà pourquoi être communiste, c'est lutter contre tout ce qui divise, tout ce qui morcelle les travailleurs. La crise actuelle met plus que jamais les travailleurs en concurrence les uns contre les autres. Pour obtenir un emploi, même un stage non payé, un logement, une place en crèche, il faut jouer des coudes, il faut des aides ou des pistons. Marine Le Pen promet, en échange de leur voix, le plus gros piston. Elle promet de pistonner tous ceux qu'elle nomme ses compatriotes. Elle appelle cela la préférence nationale. En plus de la division de la concurrence qu'introduit le capitalisme dans la vie quotidienne des travailleurs, la propagande du Front National veut introduire cette division dans les têtes entre les travailleurs français et étrangers pour faire oublier aux travailleurs que, quelle que soit leur couleur de peau, leur carte d'identité, leur religion ou leur athéisme, nous sommes tous des exploités, nous avons les mêmes intérêts. Un travailleur qui veut voter Le Pen parce que, comme on l'entend souvent dire, on ne l'a jamais essayé, c'est un peu comme un joueur qui, après s'être fait plumer au poker par des tricheurs professionnels, décide de jouer avec d'autres à la roulette russe pour essayer. Nous lui disons, non seulement ils sont aussi tricheurs que les précédents, mais en plus, tu risques bien plus gros. Et nous ajoutons que l'on s'appelle Pierre, Annie, Mohamed, Fernando ou Fatoumata, qu'on soit ouvrier, employé, femme de ménage, enseignant ou ingénieur, il faut rejeter tous les marchands d'illusions. On se connaît, on a la même vie, on vit dans les mêmes quartiers, on travaille dans les mêmes entreprises. Ensemble, on a les moyens de mettre fin au pouvoir des profiteurs, des parasites du travail humain. C'est notre travail qui crée le capital et pas l'inverse. Nous le savons, aujourd'hui ce sont plutôt les idées nationalistes, xénophobes, réactionnaires qui semblent se développer. Mais nous en sommes convaincus, cela changera. Toute l'histoire du mouvement ouvrier est marquée par ce mouvement de balancier entre d'un côté concurrence et d'un autre côté union des travailleurs. Et là je cite encore le manifeste communiste qui disait « Cette organisation du prolétariat en classe et donc en parti politique est sans cesse détruite par de nouveau par la concurrence que se font les ouvriers entre eux. Mais elle renaît toujours et toujours plus forte, plus ferme et plus puissante. » Et cela s'est déjà maintes fois vérifié. L'exemple nous viendra peut-être des travailleurs grecs. La récente victoire de Syriza en Grèce est à camoufler à l'idée que les peuples sont résignés et incapables de relever la tête. Depuis 2008, la bourgeoisie grecque et derrière elle les financiers européens ont saigné la population avec une violence inouïe et veut continuer à le faire malgré l'élection de Syriza. Depuis 2008, le chômage a explosé pour atteindre 25%. Plus de la moitié de la population vit au seuil de pauvreté. À Athènes, près de la moitié des familles ne se sont pas chauffées cet hiver, faute de moyens. Dans tout le pays, 2 à 3 millions de personnes n'ont plus aucune couverture sociale. Des milliers de fonctionnaires ont été licenciés. Le salaire minimum, qui était de 751 euros, est passé à 586 euros en 2012, et même 489 euros pour les moins de 25 ans. Les pensions de retraite ont diminué en moyenne de 45%. En portant au pouvoir un parti qui disait non à l'austérité, la population grecque a fait un geste fort. Elle a refusé de céder au chantage des huissiers, des banquiers qui opèrent pour le compte de la bourgeoisie grecque et européenne. Si dans un premier temps, Tsipras, le nouveau Premier ministre, a annoncé le relèvement du salaire minimum de 270 euros, un 13e mois pour les pensions inférieures à 70 euros, l'arrêt des privatisations, la réembauche des milliers de fonctionnaires et la distribution de bons d'alimentation, il a fait en partie marche arrière devant la pression de la bourgeoisie internationale. Dès l'annonce des mesures du nouveau gouvernement élu, la bourgeoisie grecque a tout de suite réagi en retirant 14 milliards d'euros des banques. Quant à la Banque centrale européenne, elle a coupé la principale source de financement des banques grecques et menace l'asphyxie de l'État. Cette même Banque Centrale Européenne vient de mettre à disposition des banquiers européens la somme démesurée de 1100 milliards d'euros, cela pour recycler les titres spéculatifs dont ils ne veulent plus. Elle inonde d'argent les institutions financières, mais quand un gouvernement ose tenir les promesses faites à ses électeurs, il est traité d'irresponsable et menacé d'étranglement. Voilà le fond de la bureaucratie bourgeoise, c'est la dictature du capital et des banques. Cette bourgeoisie qui ne paye ses impôts ni en Grèce ni ailleurs, qui appelle sans vergogne l'État et les banques centrales à la rescousse dès que ses opérations spéculatives tournent mal, eh bien cette bourgeoisie rentière et parasitaire pousse d'euro cri à l'idée qu'un seul centime d'argent public risquerait de lui échapper au profit d'un ouvrier ou d'un retraité grec. Tsipras n'est pas un révolutionnaire, il le dit lui-même. Mais pour aussi limitées qu'elles soient, les mesures élémentaires annoncées par son gouvernement devront être arrachées à la bourgeoisie et imposées par la mobilisation active des travailleurs. Alors oui, dans cette épreuve de force qui ne fait que commencer, nous sommes entièrement du côté des travailleurs grecs. Et nous espérons qu'ils trouveront les moyens et la voie de s'organiser pour imposer les mesures pour lesquelles le peuple grec a voté et pour faire plier une bourgeoisie aussi avide qu'arrogante, mais qui, on l'a vu dans le passé, saura se débarrasser de Tsipras si celui-ci n'obtempère pas. Il n'y a que la classe ouvrière, mobilisée, organisée, qui pourra imposer les droits, les exigences des travailleurs. Si elle laisse le gouvernement face à la bourgeoisie nationale et internationale, elle est perdue. Mais si elle s'organise et se mobilise, alors tout est possible. En tout cas, elle nous donne une leçon de fierté en ayant voté contre l'austérité malgré toutes les pressions, et cela ne rend pas plus méprisable tous ceux qui veulent nous opposer au peuple grec au prétexte que s'ils ne payent pas leurs dettes, cela coûtera 600 euros par Français, comme les médias l'ont abondamment relayé. En Grèce comme en France, ce ne sont pas les travailleurs qui ont creusé cette dette, mais les capitalistes, les financiers, car l'essentiel de ces dettes ont été faites au profit des banques allemandes et françaises, si bien défendues d'ailleurs par Hollande contre l'avis du peuple grec. Alors à Paris, comme à Athènes, c'est aux banquiers de payer la dette qui se sont goinfrés et dont ils voudraient continuer de se goinfrer, et non pas aux salariés, pas aux chômeurs et pas aux retraités. Ici, en France, les trois premières années de Hollande auront été un recul considérable du droit du travail et des conditions d'existence des classes populaires. La première catastrophe est bien entendu l'envolée du chômage et de la précarité. Le nombre officiel d'inscrits à Pôle emploi est aujourd'hui de 5,8 millions, rien qu'en métropole. En moyenne, il y a à peu près 30 000 demandeurs d'emploi de plus par mois. L'équivalent d'une grosse usine de 1 000 salariés disparaît chaque jour. Le chômage et la menace qui fait planer est le principal facteur de la dégradation des conditions de travail, de la pression pour produire toujours plus, toujours plus vite. Combien de salariés, y compris parmi les jeunes diplômés, sont en burn-out, en épuisement professionnel? Le gouvernement Hollande-Valls continue méthodiquement la démolition du droit qu'un siècle et demi de lutte ouvrière avait arraché. La dernière attaque contre le monde du travail, c'est la loi Macron. Un ensemble de mesures totalement au service du patronat et de la finance. Généralisation du travail du dimanche, facilitation des licenciements économiques, suppression programmée des conseils de prud'hommes, remise en question de la médecine du travail et du dépistage des maladies professionnelles, En fait, le patronat transmet ses désirs et le gouvernement s'empresse d'obéir. Jusqu'à présent, le prétexte à tous les mauvais coups était le remboursement de la dette. Hollande ajoute maintenant ce qu'il appelle l'esprit du 11 janvier, c'est-à-dire la récupération de l'émotion générale suscitée par la barbarie des massacres perpétrés il y a près de 2 mois. Son objectif, nous faire accepter toujours plus de sacrifices au nom de l'Union nationale. L'Union nationale est un piège mortel en cas de guerre, un piège politique qui voudrait nous faire croire que du moment que nous avons une carte d'identité française, de Madame Bettencourt à la famille Peugeot, en passant par Sarkozy et Hollande, nous avons les mêmes intérêts. Eh bien non, la seule union valable, c'est l'union des travailleurs pour se défendre face aux exploiteurs. Pas question d'union avec eux et derrière eux. Depuis 2 ans et demi, on a vu de nombreuses catégories de la petite ou moyenne bourgeoisie descendre dans la rue. Des pharmaciens, des avocats, des taxis, des notaires, des huissiers, des médecins. Le grand patron et le MEDEF, eux, n'ont pas besoin de battre le pavé et de s'égosiller dans la rue. Ils disposent d'une ligne directe à l'Élysée pour passer commande de leur moindre désir. Quant à notre classe, la classe ouvrière, elle est la grande absente de ces mobilisations, alors même qu'elle subit un recul historique de ses conditions d'existence. Certes, il y a le poids de la crise, mais il n'explique pas tout. À l'évidence, le gouvernement bénéficie de la complicité des directions des confédérations syndicales. Si celle-ci avait eu le dixième de la combativité des représentants des patrons, nous n'en serions pas là aujourd'hui. La classe ouvrière paye aussi le découragement de nombreux militants, en particulier des militants du Parti communiste. Combien de militants du Parti communiste ont raccroché après l'expérience Mitterrand, puis après celle de Jospin, écœurés de devoir défendre la politique d'un gouvernement anti-ouvrier auprès de leurs camarades de travail? La direction du PCF poursuit dans cette même voie. À la dernière présidentielle, après avoir fait allégeance à Mélenchon, qui se réfère à tout bouchon à Mitterrand, son modèle en politique, et dont les propos nationalistes et chauvins contre l'Allemagne n'ont rien à envier à ceux de Le Pen, le PC a appelé à faire voter pour Hollande, nous expliquant que si Sarkozy passait, ce serait terrible. Hollande est passé, et c'est terrible. Parce que le problème n'est pas vraiment le pantin politicien qui est à la tête du gouvernement de la bourgeoisie. Aujourd'hui, le PC cherche l'alternative avec les frondeurs du Parti Socialiste, qui rentrent à la niche dès que Valls aboie plus fort. Le PC fait les yeux doux aux verts, qui sont surtout préoccupés par l'écologie de leur carrière politique. À prendre des vessies pour des lanternes, cela ne peut que décourager les militants ouvriers restés fidèles à leurs idéaux et à leur classe sociale. Du côté de la classe ouvrière, de la force immense qu'elle représente à condition de l'utiliser, que les militants ouvriers peuvent espérer du changement, pas du côté des politiciens, bourgeois lorsqu'ils soient verts, roses un peu plus foncés ou portent des écharpes rouges les jours de manifestation. Face au patronat, face à la montée des idées individualistes, réactionnaires, obscurantistes, il ne faut pas reconstruire la gauche, mais reconstruire un mouvement ouvrier qui en revienne aux valeurs fondamentales du mouvement ouvrier, la solidarité, la fraternité, l'internationalisme, bref, tout ce qui fait le fond des idées socialistes et communistes. L'avenir appartient aux idées communistes qui seules peuvent permettre de comprendre le monde afin de pouvoir le transformer. De nombreux jeunes et moins jeunes, intellectuels ou travailleurs, sont inquiets, révoltés par l'évolution de la société, par la montée brutale des inégalités sociales, de la misère, des guerres, des idées d'extrême droite, de la menace que le capitalisme fait peser sur les générations présentes et futures. Et cela alors que jamais l'humanité n'a disposé d'autant de moyens techniques et scientifiques. Tous les fléaux que génère le capitalisme ont une même racine. Le fait que l'ensemble des décisions économiques soient prises en fonction d'un seul critère, la loi du profit, et non pas en fonction d'un intérêt général. Cet art ne pourront disparaître qu'en supprimant la propriété privée des moyens de production et en abolissant l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pourquoi être communiste est la seule façon d'être conséquent quand on veut lutter vraiment contre l'exploitation, contre la misère, contre toutes ces formes d'oppression et de discrimination. C'est ce combat que nous, Lutte ouvrière, vous proposons de mener ensemble. Et c'est de cela que nous pourrons discuter tout à l'heure avec Jean-Pierre Mercier, notre porte-parole nationale qui nous fait le plaisir de venir à notre fête. Mais en attendant, place au banquet, place à la fête, et après l'apéritif pour le gosier, je vous propose un apéritif pour les cordes vocales. Je vous propose de reprendre le chant des travailleurs, l'international, une notion vitale en ces temps de montée des idées réactionnaires.
C'est l'éruption de la fin du passé.